Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et ravi de vous retrouver pour Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Vous le savez, désormais, Good Luxe est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Vous me retrouvez en solo et en direct entre 13h et 15h. Et quand enfin arrive le week-end, je retrouve Emmanuel Rubin, mon acolyte de toujours, directeur éditorial des éditions Jaloux. Et cette semaine, nous vous emmenons au restaurant, mais une fois n'est pas coutume, nous vous emmenons côté salle. Et oui, ne serait-ce pas le retour du service grand genre, la salle prend sa revanche. C'est ce que nous allons voir avec nos invités dans un instant. Kevin Chambenois, il est directeur de la restauration du Bristol à Paris. Il a surtout été récompensé du titre de meilleur ouvrier de France l'année dernière. Nous en parlerons également avec Jean-Luc Frusetta, directeur académique de la nouvelle école ferrière, et avec Romain Lucchini, cofondateur de No More Penguins. Mais tout de suite, les nouveautés de la semaine.
Good de Luxe Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et c'est la tradition chez nous. Emmanuel Rubin, on commence par la table de la semaine.
Là, on entre dans le vif de la saison.
Attention.
Les belles adresses qui ont été claironnées il y a quelques semaines entrent en scène, à commencer par Papillon. Papillon, c'est le bistrot de Christophe Saint-Agne. Christophe Saint-Agne, c'était jusqu'à présent le chef du Meurice à Paris, 3 étoiles Michelin, l'école Ducasse. Il quitte donc le Giron Ducasse et le Monde des Palaces pour ouvrir ce qu'on appelle un bistronomique. Alors, nous sommes dans le 17e rue Messonnier, du côté du 17e Bon Chic, hein, avenue de Wagram. La salle tout à fait limpide et la carte courte, ramassée, une vraie technique, une vraie touche, des jolis produits. On peut lui reprocher pour l'instant, légèrement, justement, parce que c'est Saint-Agne, c'est un chef dont on attend beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a une vraie personnalité, une vraie singularité, d'être un petit peu sage. Alors bien évidemment, l'œuf miroir, truffe noire, pancetta, réussi. Saint-Jacques a cru et ses poutargues, très réussi. La barbue avec les herbes amères, très réussi. Mais il manque ces deux, trois plats qui, justement, poussent un peu l'adresse, non pas vers le Michelin, les gastronomies à 10 dents, mais un peu plus, et ça joue quand même sur deux plats. Et là, dans les jours qui viennent, il va avoir une carte qui va bouger beaucoup, très dynamique, très mouvante, et je pense qu'il faut qu'il aille vers ce genre de plat. Deux plats, l'épaule d'agneau travaillée, fumée au foin, et la frégola. Alors l'épaule d'agneau, vous savez, la chair de l'agneau, la frégola, ce sont des pâtes sardes, mais en forme de petites billes. C'est vrai que ça roule en bouche, c'est assez rare, c'est très réussi. Et son épaule d'agneau, la chair de l'agneau, elle fait peur à beaucoup de gens. Parfois, elle est très marquée en goût, surtout parfois, certains l'aiment, les amateurs l'aiment rosée, d'autres, c'est ce qui leur fait peur, donc ils l'aiment beaucoup plus cuite. Là, il a un travail de découpe et un travail, justement, parce que c'est fumé au foin, qui vous réconcilie avec l'agneau. Très grand plat de simplicité. Puis alors, surtout sur le dessert, un dessert de chef qu'on n'attend pas, un gâteau au chocolat. Vous me direz, on m'a tout fait sur les gâteaux au chocolat. Les moelleux, les fondants, les chocolats au chocolat, les tartes au chocolat. Là, il le dit d'ailleurs en salle. Comment vous dire? C'est un gâteau, il vous dit, hein, un gâteau au chocolat, pas réussi, réussi. C'est-à-dire qu'il va réinventer avec des jeux de texture. Vous savez, ce gâteau de maman, quand elle le rate un peu. Et là, il le déconstruit. C'est, en fait, c'est un raté, mais très réussi.
Ah oui.
Étonnant. Il y a du coulant, il y a du trop cuit, il y a du braisé. Il travaille ça avec une petite crème.
Emmanuel Rubin s'extasie sur un dessert.
Ah ouais, exactement. Il travaille ça avec une petite crème légèrement épicée. Et puis, il met quelques petites pousses de salade, type mâche. C'est un grand dessert de chef. S'il pousse vers cette épaule d'agneau et vers ce gâteau au chocolat, alors là, on gagne un très grand bistrot parisien. Ça va venir bientôt. En attendant, cette semaine, tout Paris, et pas que les foodistes étaient là.
C'est hallucinant. Comme Alain Ducasse qui disait il y a quelques jours lorsqu'on le recevait, il disait la prochaine grande adresse, ce sera celle de mon chef, parce qu'il appelle encore mon chef.
Ah, mais il a du mal à se départir de. Voilà. Il avait fait Papillon. Le coup avec Piège, tout ça.
Voilà.
Ah, bah justement, c'est un grand chef, mais je pense qu'il va gagner. C'est difficile, vous savez, pendant des années, vous êtes chez Ducasse, dans les. Se départir un peu de ce grand monde et de ces grands gens, c'est difficile. Là, il est
Allez,
pas loin et ça va être une belle adresse.
Papillon, dans le 17e arrondissement.
Allez, je vous donne même le téléphone, dépêchez-vous parce que c'est déjà bondé. Je l'ai, c'est 56 79 80 88. Vous réécoutez en replay, en podcast, débrouillez-vous. Faut y aller.
L'autre couleur de la semaine, parce qu'il y avait la couleur chocolat, l'autre couleur, c'est le rouge. Mais tout rouge, hein, tout rouge, tout rouge. Les fleurs, les plantes, les vases. Et c'est une nouvelle boutique. Et c'est chez Agnès B, 6 rue du Jour, dans le premier arrondissement de Paris, au fond de sa galerie. Elle s'est associée avec sa copine Dani, et oui, la chanteuse, avec le grand créateur fleuriste Christian Tortue. Et ensemble, ils ont eu envie de créer cet univers. Évidemment, ils le lancent, voilà, plein week-end de la Saint-Valentin, ça tombe bien. Toute une déclinaison des plantes, des fleurs, des vases et de tout ce qui fait de la déco florale
autour
des rouges, rose, rose clair, rose pâle et du rouge. Et les trois fleuristes qui sont là sont hyper techniques et ils vous expliquent très précisément ce que signifie le langage des fleurs, pour ne pas vous tromper.
On rappelle quand même que Dani, la fameuse chanteuse, l'icône des années 70, avait créé cette enseigne qui s'appelle Au nom de la rose. Donc c'est une vraie passion pour elle. Voilà. Bien avant l'heure, toutes ces boutiques monomaniaques, Dani, c'est Au nom de la rose historiquement. Elle avait quitté, elle vendu ses parts. La revoilà du côté des bouquets.
Ça s'appelle Rouge to Rouge. Allez, très rapidement, Web de Luxe.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, Web de Luxe.
Sandé Prenoir,
bonjour.
Bonjour, Web de Luxe.
Web de Luxe, très rapidement, vous avez dit.
Très rapidement, je vais vous voir arriver très rapidement. Et maintenant, c'est à vous.
Je suis rassurée. Alors, deux nouveautés cette semaine. D'abord, cette expérience digitale inédite proposée par la maison danoise Georg Jensen, qui propose des bijoux du design haut de gamme et qui a aussi la distinction de fournisseur royal de la reine du Danemark. Rien que ça. Alors, on entre l'URL giving.georgjensen.com. En parallèle, ça c'est sur l'ordinateur, en parallèle sur son smartphone, on va rentrer une autre URL qui nous est donnée sur cette page d'accueil. Là, l'ordinateur et le smartphone vont se lier ensemble, si vous voulez, se synchroniser. Et on va débloquer non seulement un contenu sur l'ordinateur où on va visionner une vidéo, on est dans une soirée, on voit des bijoux sur les invités, on voit des objets déco tout autour de la salle. Et évidemment, sur le smartphone, eh bien, ces objets apparaissent alors que c'est diffusé sur l'ordinateur. On peut cliquer dessus, les ajouter à une wishlist pour pouvoir les visionner un petit peu plus tard. C'est super bien fait. Et en parallèle, sur la vidéo, sur l'ordinateur, on a trois moments où la vidéo s'arrête. On a le choix entre deux objets à chaque fois. Et en fonction de l'objet qu'on va choisir, l'histoire va se dérouler d'une certaine manière. Expérience inédite, moi, franchement, ça m'a bluffé.
Une expérience digitale assez incroyable où véritablement, on n'est pas dans
les
la
deux
3D,
appareils.
Mais on est avec les deux appareils. Et en plus, on peut acheter tout de suite. C'est un peu ça l'idée.
C'est un peu l'idée. C'est quand même commercial.
Un petit peu la même idée. On sent que ce sont les nouvelles techniques aujourd'hui du côté de chez Yves Saint Laurent Beauté.
Oui, pour le lancement de la nouvelle eau de parfum Black Opium Nuit Blanche, opération là encore double écran. Alors là sur l'ordinateur on va écrire ysl blackopium.com/fr. Idem, on rentre l'URL, une URL qui nous est donnée sur notre téléphone. Les deux appareils vont synchroniser, on a la vidéo et là mieux sur notre portable, on a le portable en fait en main de l'égérie qui est la mannequin Eddie Campbell. On a accès à tous les textos qu'elle reçoit. Quand elle se filme, c'est elle qu'on voit. Quand elle parle en WhatsApp avec ses copains, on entend ce qu'ils se disent.
Un vrai faux portable.
Un vrai faux portable. Ah, on peut chasamer un petit peu sa musique parce que toute la musique qu'elle entend quand elle est en boîte de nuit, eh bien, on a les titres de la musique qu'elle écoute. C'est super bien fait. On a véritablement l'impression d'être Eddie Campbell. Franchement. Pas mal.
Vis ma vie d'Égérie de Saint-Laurent.
Voilà. Bah, je me suis sentie mannequin.
Merci pour cette découverte.
Merci à vous.
À la semaine prochaine. Allez, on enchaîne. Emmanuel, vous pouvez pas vous en empêcher, mais alors rapidement un petit bar.
Un petit bar qui s'appelle le Tiger. Nous sommes exactement du côté de la rue Princesse au 13 rue Princesse. L'idée de ce bar, c'est un décor plutôt dans l'idée des maisons de thé chinoises, mais contemporaines, avec notamment un ajustement de banquette à la façon, vous savez, des compartiments de train. On est dans un univers un peu boxé, c'est plutôt réussi. Alors bien sûr, on boit pas du thé, on boit plutôt des cocktails. Et il arrive au cocktail ce qui va déjà arriver aujourd'hui, vous savez, à la pâtisserie, c'est-à-dire justement le côté monomaniaque. Ici, on travaille quasi essentiellement le gin. C'est pas exclusif, mais quasi 50 gins différents. Je rappelle que le gin, selon Dali, c'était la boisson de l'imaginaire, mais quand même avec modération. Adresse plutôt sympathique. Et puis surtout, nous sommes au 13 de la rue Princesse. Tout à côté, en voisin, il y a Castel. Et bien voilà un moyen de ne pas se prendre la porte du côté de la rue Princesse.
Là, on peut rentrer.
Vous pouvez rentrer.
Le
bienvenu. Sympathique.
Allez, on termine avec l'objet de la semaine, ou plutôt les objets de la semaine. Ce sont des objets gourmands. C'est un panier gourmand, que dis-je. Et c'est la grande épicerie de Paris. Bah oui, vous allez me dire, évidemment, quand on va à la grande épicerie de Paris, au bon marché, on ramène toujours un panier gourmand. Sauf que ce qu'ils n'avaient toujours pas fait, ce qui est quand même assez incroyable, ils n'avaient pas créé leur marque avec leurs produits. Donc il y a des sourceurs, il y a des gens qui ont l'habitude de tester plein de choses et qui savent très bien le faire, la grande épicerie de Paris. Là, ils sont aller chercher bien sûr les meilleurs producteurs, les meilleurs artisans, et se sont dit on va faire une gamme de produits. Et là, ils arrivent en masse, 370 produits, rien que ça, pour l'instant salé, sucré, frais, d'épicerie, 1000 autour de l'été. Et donc voilà, vous avez par exemple, alors des choses toutes simples, c'est écrit la grande épicerie de Paris, et là pour il y a je sais plus une 34 je crois ou une quarantaine de confitures, 24 confitures exactement, il y a écrit tout simplement l'abricot du Languedoc-Roussillon. Pour la confiture, par exemple. L'huile d'olive vierge extra, c'est très simple. Du coup, vous trouvez ses sourcils un petit peu en dessous, le nectar de Mirabelle, les petites sardinettes au piment d'Espelette, etc., etc.
C'est bien, c'est très bien. Pourquoi pas? Il faut le faire. Et je pense que derrière, il y a une sincérité. J'espère juste que la grand-père des épiceries ne va pas glisser dans ce qui a tué, à mon sens, Fauchon et Édiard. C'est-à-dire que c'était des vraies épiceries où on avait justement des valses, des quiquettes, des produits estampillés du monde entier. On n'était pas dans une espèce de marque qui vendait sa marque. C'est ce qui a tué vraiment, à mon avis, ce qui a abîmé Fauchon et ce qui a tué Édiard. Donc qu'il le fasse très bien, mais qu'on reste justement dans cette épicerie fine, c'est-à-dire que le monde arrive comme ça sur des linéaires dans votre panier. Autrement,
et surtout,
là encore,
on
va être déçus.
N'oublions pas le savoir-faire des artisans et des producteurs. Et à l'heure justement où on est en train de les mettre en avant, c'est vrai que c'est une démarche marketing inverse. C'est étonnant. Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
On va goûter et on va vous dire. Voilà.
Allez, hop. À tout de suite.
Allez, on se retrouve tout de suite. On va aussi passer au restaurant et plus particulièrement, on va s'intéresser au service grand genre. À tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goodlux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et des Goodlux en salle cette semaine, leçon de service avec nos invités. Kevin Chambonnois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la restauration au Bristol Paris que l'on ne présente plus. Vous êtes également meilleur ouvrier de France, maître d'hôtel depuis l'année dernière. Romain Lucchini, bonjour.
Bonjour.
Co-fondateur de No More Penguins, assez des pingouins, on comprendra tout ça dans un instant. Jean-Luc Frusetta, bonjour.
Bonjour.
Directeur académique de l'école Ferrière qui en est à sa première promotion en région parisienne autour de l'hôtellerie et de la restauration. Justement, Kevin Chambonnois, qu'est-ce qu'il faut savoir faire pour être meilleur ouvrier de France, maître d'hôtel du service et des arts de la table, puisque c'est ainsi que se prénomme, en tout cas que se dénomme votre appellation de meilleur ouvrier de France?
Je pense qu'il faut savoir être naturel et avoir envie de faire plaisir aux personnes qui nous entourent.
C'est aussi simple que ça le service aujourd'hui en 2016 en France?
C'est pas très compliqué d'être naturel et puis de vouloir faire plaisir, mais c'est ce que l'on pense. Ensuite, le fait de recevoir et d'ouvrir sa maison et un petit peu son âme, c'est un petit peu compliqué pour beaucoup de personnes.
C'est ça.
Parce qu'il y a des considérations que le service doit être codifié, alors que ce que l'on demande à une personne qui reçoit, c'est de donner du plaisir, d'être souriant et surtout avoir envie de recevoir et de faire découvrir la cuisine d'un chef.
J'avais reçu Denis Courtiade, donc peut-être le plus grand d'entre vous, si je puis me permettre.
Vous parlez en carrure ou il va mal le prendre. Denis, si tu nous écoutes, désolé.
Il me disait
de ça, du Plaza.
Du Plaza, ouais. Exactement.
Trois étoiles cette année.
C'est quand le client part que tout commence.
Et tous les jours est une nouvelle aventure, car ce qui a été fait une journée ne donne aucun acquis pour ce que sera le lendemain.
On va essayer de voir tout de même que malgré tout ce que vous dites, ce qui est vrai, ce qui fait la différence dans le service de salle, même si aujourd'hui on essaie de les réinventer, parfois de s'en départir, ça reste un milieu et un métier éminemment technique, avec plein de codes, et si on veut les dépasser, encore faut-il les connaître. Parce que j'imagine, lorsque vous avez reçu ce titre, et lorsque vous orchestrez le Bristol, ou Courtiade, ou Plaza, ou Charles Pétrus au Clarence, quelques-uns des grands noms qui activent aujourd'hui la direction de salle parisienne, je pense qu'il faut quand même un peu connaître le métier et savoir flamber, retirer, tourner.
Et je suis effectivement d'accord avec vous. Ce que nous recherchons au Bristol, par exemple, nous ne sont pas forcément des compétences techniques, mais c'est des compétences humaines. Ensuite, on peut donner à nos employés une compétence technique, savoir justement flamber, rôtir, servir à droite, débarrasser sur la droite. Mais ce qu'on ne peut pas leur donner, c'est leur envie et leur passion. Et c'est des personnes passionnées à la base qui ont envie de progresser. L'hôtellerie et le service, la restauration est un métier de passionné, des personnes qui ont envie de pouvoir évoluer. C'est un des seuls métiers aujourd'hui avec la cuisine où l'on peut partir d'un échelon considéré comme bas et arriver à des postes très importants.
Et voyager dans le monde entier.
Et voyager et rencontrer des personnes exceptionnelles, absolument. Mais la première chose qu'on ne peut pas donner, c'est le savoir-être, c'est l'envie de recevoir, c'est l'envie de faire plaisir, d'être dédié à un métier qui est superbe.
Jean-Luc Frusetta, d'ailleurs, oui. Ça c'est la première chose importante. Il y a justement toute cette technique, toute cette gestuelle qui peut-être à un moment a été trop mise en avant. Alors, oui. Je ne veux pas sous votre gouverne, bien sûr, oui, messieurs, parce que c'est votre métier davantage que le mien. Mais de l'extérieur, on pouvait avoir l'impression, il y a de ça quelques temps, déjà qu'on oubliait justement le naturel et qu'on était un petit peu sur une mécanique. Aujourd'hui, à l'école Ferrière, qu'est-ce qu'on enseigne? Est-ce qu'il faut quand même les bases, comme pour tout, des bases théoriques? Oui, une certaine gestuelle, mais un peu plus.
Alors, à Ferrière, effectivement, nous enseignons avant tout l'envie. Ce que Kevin Chambenois a évoqué, effectivement, l'envie de faire plaisir, cette envie de générosité, cette envie de partager. Donc, pour avoir quelque chose à partager...
Et comment ça s'enseigne, ça?
Alors, comment ça s'enseigne? En faisant goûter, en créant de la générosité, en rendant nos jeunes avant tout gourmands. Gourmands de la table, gourmands des mets, gourmands des vins, gourmands de curiosité, gourmands de vie, tout simplement. À partir du moment où on crée une envie, on crée un projet, donc on n'est plus dans de la formation, dans du travail, on est dans du désir. Et c'est là où, effectivement, la technique, elle reste importante, parce qu'il faut pouvoir s'en affranchir. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire, la technique. On peut l'apprendre également par la suite. Le but, c'est de pouvoir rester ensuite naturel. Une fois que mes mains sont indépendantes, je peux rester naturel, concentré sur le bien-être de mon invité. On n'accueille plus aujourd'hui des clients ou des consommateurs. Nous recevons des invités pour leur faire partager une expérience.
Même dans le vocabulaire, ça change.
Bien sûr. C'est une autre approche, une autre philosophie. Dans les écoles un peu passéistes, on continue de focaliser sur la technique, l'apprentissage par la répétition.
La main derrière le dos.
Le service à la française, au guéridon. Nous les enseignons toujours, mais le but, c'est de savoir les adapter aux attentes d'un client qui se renouvelle, qui est différent selon sa culture, que l'on va initier à vivre une expérience toujours différente. À nous de créer de l'émotion. Et nos métiers, c'est avant tout un partage d'émotions.
Il ne faut pas que nos clients soient prisonniers du service, mais il faut que nos clients soient au centre du service. Et donc, c'est une considération différente. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une réflexion où il faut faire les choses parce qu'elles sont faites traditionnellement, mais qu'est-ce que les personnes qui nous choisissent pour un déjeuner, un dîner, un moment, ont envie? Et chaque personne est différente. Vous allez venir au Bristol, et certains de nos clients ont des occasions extraordinaires à célébrer, ils viendront peut-être une seule fois. On ne va pas avoir le même service qu'une personne qui vient peut-être quotidiennement. On doit s'adapter. Et ça, c'est vraiment une part de psychologie, une part d'habitude, et surtout de mettre le client au centre de toutes les réflexions, avant tout.
D'accord, c'est pas mal. Bon, on va y revenir. Alors, attendez, les troisième invité.
Ah non, mais je vois que vous prenez des notes, alors j'ai besoin que vous sortiez.
Des notes, ça sera pour la deuxième. En plus, je les écoute, ils parlent beaucoup, en plus, ils parlent bien. Troisième invité, Novor Penguins, et tout
Romain,
est dit.
Lucchini, ça, votre idée, vous aviez un petit peu cette idée, peut-être, passiste dont vous parliez à l'instant du service, vous êtes dit, bon, nous en 2011, on peut faire autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, on choisit le métier de la restauration, mais vous, vous avez des comédiens, des gens qui travaillent dans l'art ou qui travaillent peut-être pas du tout dans la restauration. Vous êtes dit, nous, on va faire les choses différemment. Qu'est-ce que ça veut dire faire les choses différemment avec No More Penguins?
C'est pas tant faire les choses différemment parce qu'on fait quand même le même métier, mais c'est effectivement d'avoir... un sourcing et un casting de gens qui ne font pas que ça et qui ont des parcours qui sont riches d'autres expériences, comme vous le disiez, artistiques, théâtrales, journalistiques. Nous, on s'est basé sur un constat très simple. On l'a monté jeune, No More Penguins. On faisait tous soit des études, soit des débuts de carrière professionnelle. Et on avait tous à côté, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, la restauration comme...
Comme job d'appoint.
Après, moi, c'est un job d'appoint qui m'a beaucoup plu, que je continue à pratiquer quotidiennement. Et donc, dans ces années-là, on a tous rencontré beaucoup de monde, des collègues, jeunes comme nous, qui avaient des parcours très hétéroclites et divers. Et donc, à partir de là, suite à quelques demandes répétées, on a fini par monter ce collectif qui avait pour base justement la richesse de ces et la diversité de ces membres. Voilà, exactement.
Mais après, vous les placez, comment ça se passe? C'est une école? C'est quoi, d'abord?
Absolument pas. C'est un collectif. Ça a vraiment commencé comme une bande de potes. Ça fait très cliché de dire ça, mais c'est le cas.
Parfois, ça arrive.
Mais voilà, parfois, ça arrive. Et donc voilà.
Oui, on peut faire appel à vos services, comme dans des boîtes d'événementiel, un traiteur, etc. On fait appel à No More Penguins. Alors, je cite, vous dites, un service efficace mais décontracté, attentif et souple, qui sache créer du lien, être dans la communication, le partage, sans tomber dans la déférence à outrance. Mais finalement, c'est un petit peu la même idée, j'imagine que vous avez tous du service. Qu'est-ce que vous prenez au service, j'allais dire, traditionnel, ou au service grand genre, des grandes maisons? Et qu'est-ce que vous laissez?
Bon, alors déjà, il y a une chose qui est de fait très différente, c'est que nous, on intervient dans un cadre événementiel. Donc,
c'est ponctuel.
Voilà, c'est pas seulement la ponctualité, c'est qu'un événement, il a une thématique, il a un client en général, il a un public qui est précis. Donc, si vous voulez, c'est pas un nom qui réserve et on défend pas une maison, No More Penguins. On la défend par notre approche, mais on est quand même au service d'un client. Ça, c'est la première chose. Là, ce qu'on retient et ce dont on s'inspire encore aujourd'hui à notre manière, mais c'est évidemment le professionnalisme, l'attention qui doit être donnée aux choses de base, aux choses évidentes, c'est-à-dire servir correctement, c'est-à-dire sourire, c'est-à-dire savoir présenter un vin, savoir
l'efficacité aussi.
Être efficace. Et donc voilà, ça c'est si vous voulez, c'est la base du service. C'est absolument pas quelque chose qu'on a vocation à remettre en cause. Ce qu'on essaye nous d'apporter en plus, c'est vraiment ce côté sur mesure, ce côté un peu plus d'interaction qu'on essaie de vraiment mettre en avant. Et de dépasser sur et de voilà de pouvoir offrir une solution.
Allez, par exemple, sans citer forcément de maison ou de marque, un travail que vous avez pu faire sur mesure, au petit point, pour quelqu'un qui a fait appel à vous et que vous auriez orchestré côté service. Spectaculaire, s'il vous plaît.
Spectaculaire, s'il vous plaît. On a pu servir en toge. Presque en tenue
d'Ève
et d'Adam pour le lancement en grande pompe de voilà d'un parfum qui avait pour thématique la Grèce antique, etc. Donc voilà, là il y a une histoire.
Vous réinventiez un petit peu le banquet, les délices de Capoue.
Voilà, c'est formidable. C'est important justement. Du coup, c'est vrai qu'on n'a pas commencé par là le costume, la tenue. Est-ce qu'il est obligatoire, je me tourne vers vous, dans les grands restaurants, dans les grandes tables, justement, la veste, la cravate, est-ce que pour vous, c'est justement l'indispensable pour être à la hauteur de votre métier?
Ça prend une grande partie, effectivement, d'un uniforme. Alors c'est effectivement assez paradoxal, parce qu'on demande à nos employés d'amener leur personnalité, mais on leur demande d'être tous pareils dans l'apparence. Quoique c'est aussi quelque chose qui est en train d'évoluer, où on demande par exemple aux responsables d'avoir leur costume personnel. Donc avec un. Encore une fois, on parle d'attente des clients. Mais si vous allez au Bristol et que vous voyez des personnes en toge romaine, vous allez peut-être avoir un petit.
On est bien d'accord. Ridicule.
On sera dans une expérience un petit peu cocasse, effectivement. Donc on est garant d'une tradition, mais qu'on veut réinventer. Je pense que le service est avant tout, comme le disait Romain, un job à la base. On ne considère pas le service comme un métier. Quand on est en troisième, en quatrième, dans l'orientation, on dit qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire médecin ou est-ce que des études scientifiques ou littéraires? Je veux faire serveur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Et le service, très longtemps, a pas été forcément très bien considéré. Donc, et on s'aperçoit pourtant que c'est un métier formidable. On a énormément de clients qui nous regardent en salle et nous disent « Mais j'aimerais bien être à votre place parce que vous vous amusez, vous passez du bon temps. Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas conseillé de faire ça plus tôt ?»
Donc, ces états, justement, oui. Vous qui êtes sur cette charnière, bien qui sûr. Est celle de l'école et de bien la passation sûr. Et de l'éducation, est-ce que les jeunes que vous recevez, ou que vous allez recevoir dans les promotions, oui. dont on espère, elles seront nombreuses, ont une envie aujourd'hui de devenir, justement, de travailler, j'allais pas dire comme serveur, mais de travailler dans la salle, dans la direction de salle, orchestrer une salle, là où on voit peut-être qu'il y a ces dernières saisons quand même un réenchantement du métier, en tout cas du cuisinier, voire du pâtissier.
Tout à fait. Ils sont en quête de sens, avant tout. Et comment donner davantage de sens à sa vie que de se destiner à rendre les gens heureux? Alors certains pensent effectivement que ça ne peut passer que par la cuisine, parce que c'est très concret, on peut s'évaluer
très
rapidement.
C'est très médiatisé quand
même. La notion de service, effectivement, elle est plus aléatoire, parce que c'est une intention. Je peux acheter un kilo de caviar ou un kilo de foie gras, je ne peux pas acheter un kilo de bonheur ou de bien-être. Ça se construit, c'est cette alchimie, ce mélange de compétences, de psychologie, d'altruisme, de culture générale qui est extrêmement importante pour savoir faire face à toute situation.
Et à, effectivement, des sociologies diverses et variées, que ce soit dans les grands restaurants, parce que le monde entier arrive et c'est pas toujours les mêmes, ou alors dans le bistrot de quartier tel qu'il peut se réinventer. Il faut avoir une sacrée répartie quand on va voir ça.
Oui, justement, on fait une petite pause sur BFM Business.
Le temps de réviser. On s'est dit, dis donc, elle arrive. Voilà. Passe à l'entrée, là.
Le temps de réviser notre culture générale, justement, et on vous retrouve juste après.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Good Luxe côté salle cette semaine, mais où est passé le service grand genre? Rassurez-vous, il revient au galop. Je vois Kevin Chambenois déjà qui hoche la tête, directeur de la restauration du Bristol Paris, meilleur ouvrier de France, maître d'hôtel 2015. Nous sommes toujours également en compagnie de Romain Lucchini, cofondateur de No More Penguins, et de Jean-Luc Frusetta, directeur académique de l'école Ferrière. C'est vrai que juste avant la petite pause, je voudrais juste vous poser une question, Kevin Chambenois. On parlait de culture générale. Quand vous passez le concours de MOF, meilleur ouvrier de oui. France, il y a la plein. Culture générale.
Oui, on avait... Alors le concours de meilleur ouvrier de France, maître d'hôtel, d'art du service et de la table, se fait en deux étapes. Une première étape qui est éliminatoire, ce qu'on appelle les demi-finales communément, où nous sommes tous les candidats dans un grand amphithéâtre où sont passées une quarantaine ou 60 questions d'ordre gastronomique, d'ordre culture générale. Puis ensuite quelques questions en anglais et puis ensuite les épreuves un peu plus techniques et de communication. Donc oui, culture générale, culture gastronomique, quelles sont les différentes appellations pré-salées, quelles sont...
Pauillac.
Betsomme.
Allez-y, c'est vous, mais champion. Attendez, il faut réviser, c'est oublié déjà maintenant.
Oui.
Non, mais c'est impressionnant, sincèrement, ouais. Quand on voit, d'ailleurs, c'est toute la périodicité du concours de MOF. Il date depuis combien d'années, d'ailleurs, le statut de meilleur ouvrier de France, directeur de salle, maître d'hôtel?
Maître d'hôtel, si je ne me trompe pas, et je peux me tromper, on est dans les années 80.
Ah, c'est quand même pas le plus récent, mais c'est pas le plus vieux non plus.
Non, on voit 1925,
bien que. 1925. Hein,
juste une petite précision là-dessus. Je vais se parler après Mélène, mais par exemple, les trophées Le Chef qui récompense des chefs, pour la première fois l'année dernière, justement, ils se sont enfin intéressés à la salle. Ils ont récompensé Denis Courtiade du Plaza. Oui. Pour dire quand même que, justement,
il y avait quand même un grand paradoxe de la restauration et du monde de ce petit milieu de la gastronomie. Les chefs, qui ont longtemps été dans la grotte, depuis une trentaine d'années, 40 ans, bientôt 50, sont surmédiatisés. Et vous, les gens de la salle, les directeurs de salle, les chefs de partie, les maîtres d'hôtel, vous êtes les grands discrets, les grands oubliés, très peu médiatisés. Personne ou peu de gens peuvent citer. Aujourd'hui, tout le monde cite Ducasse, Gagnère, Robuchon, Lignac. Quand on parle de Courtiade, de Pétrus ou de vous-même, vous êtes connus du milieu, mais vous n'avez pas encore percé la bulle. Est-ce que vous le vivez bien, ou est-ce que vous pensez que quand même, il va falloir que, pour réhabiliter aussi ce métier, vous, aujourd'hui, vous deveniez aussi un petit peu, si ce n'est des stars, je vous le souhaite pas, mais en tout cas un peu plus médiatisé. Il y a une injustice quelque part. Vous êtes sur le devant de la scène. C'est vous qui avez fait l'interface de trait d'union entre la cuisine, on vient d'abord pour ça peut-être, mais pas seulement, et le client. Finalement, on vous oublie.
Je pense qu'il n'y a pas d'injustice, mais je pense que c'est tout est question de cycle. Dans les années 50-60, c'était le maître d'hôtel qui était mis en avance, ou c'était lui qui était garant du service.
Avant, les chefs étaient dans la grotte. Hein.
Ensuite, on a fait le service à l'assiette, et puis là, on a fait on a trouvé une cuisine qui était beaucoup plus précise et beaucoup plus centrée autour de la cuisine. On est en train de revenir avec un peu plus de contact humain grâce aux écoles, grâce aux différents intervenants. Et je pense que c'est un équilibre qui doit se faire. Les chefs ne peuvent pas faire tourner un restaurant sans le personnel de salle. Le personnel de salle ne peut pas faire tourner un restaurant sans chef. Donc il n'y a pas de conflit à avoir. On travaille tous dans le but de faire plaisir à des personnes, dans le but qu'ils puissent revenir, qu'ils passent un très bon moment et qu'ils soient nos ambassadeurs. Et d'une même intelligence, personne ne recherche la gloire, sinon on ne ferait pas ce métier.
J'ai lu qu'au NEMA à Copenhague, ils emmenaient carrément les cuisiniers présenter leurs plats en salle.
Oui,
vous en pensez quoi?
Il y a de plus en plus de cuisines ouvertes à Paris aujourd'hui. On est quasiment le nez dans la cuisine. On a l'impression que c'est paradoxal, parce que dans le même temps, il y a un moment où on a l'impression que le service se fait la malle, et dans le même temps qu'il revient en force. J'entends par là, vous l'avez dit, pendant des années, c'est des années nouvelle cuisine, vous n'étiez plus des porteurs d'assiettes.
Absolument.
Donc assez muet. Du côté des palaces, il y avait un espèce de ce qu'on a appelé le grand genre, des flambages, mais c'était tellement à distance vis-à-vis du personnel que vous impressionniez les gens. Il y avait une sorte de morgue. Je trouve que depuis une dizaine d'années, notamment dans les grands restaurants, alors certes, vous avez gagné en complicité, en naturel, avec la bonne distance, et vous impressionnez de moins en moins, les gens sont de plus en plus à l'aise, mais je trouve tout de même que dans les grands restaurants et dans les grands palaces à Paris ou ailleurs, il y a un retour tout de même du beau geste, du spectaculaire.
Absolument.
Vous êtes en train de réinventer les codes. On peut pas dire tout de même que c'est pas un métier technique, et je crois aussi que peut-être le public, lorsqu'il va au restaurant, il veut certes une grande assiette, mais il en a un peu marre des porteurs d'assiettes et du serveur qui tape l'épaule. Je crois qu'il a envie à nouveau qu'on lui rende un petit peu de la magie. Et c'est ce qui se passe au Plaza, vous-même au Bristol. On essaiera de faire un petit tour de salle
tout
à l'heure.
Qu'est-ce que vous faites alors? Vous découpez la poularde?
Je pense que c'est un peu les traditions françaises. Quand vous êtes le dimanche à recevoir votre famille et puis que vous vous prenez à l'exercice de découper le poulet, c'est superbe, c'est un moment de convivialité. Et nous, ça nous permet effectivement d'avoir une interaction avec le client. À la brasserie, le 114 Faubourg, on filette les sols, on découpe le canard. Au restaurant
épicure, ça revient.
Ça revient.
Alors ça risque totalement disparu.
Mais c'est une demande de la clientèle également. Parce que
elle a à nouveau besoin de sens.
D'un point de vue cuisine, culinaire, les pièces qui sont cuites entières ont beaucoup plus de saveur que les pièces qui sont cuites en petit. Donc ça a un sens également culinaire. Mais tout ça, il faut savoir l'expliquer et il faut savoir ensuite le transmettre à nos clients.
Jean-Luc Frusetta, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça tient de l'expérience aussi. Il faut quand même avoir ces gestes techniques.
Tout à fait. Il faut les apprendre. C'est pourquoi à Ferrières, nous avons effectivement des voitures de tranche, nous avons des réchauds et nous apprenons bien évidemment toutes les grandes techniques classiques, sans oublier que même si l'on découpe une poularde ou que l'on flambe une crêpe, on doit avant tout se concentrer sur le client. Parce que c'est sa relation, c'est son attente, c'est son désir, c'est la magie, la façon effectivement de transformer cet essai qui compte le plus. Ce n'est pas que la technique qui est importante, c'est un des supports, un des outils. La transformation, c'est le chef d'orchestre, c'est le maître d'hôtel.
La relation avec le client, je vais vous sortir trois horreurs, vous allez me dire, tiens, on va commencer par Romain Lucchini, par quoi vous les remplacez ? Bonne continuation, messieurs, dames. Ça s'est bien passé. Ça vous a plu? On bannit tout ça?
En tout cas, dans le cadre dans lequel nous, on intervient, ça n'a strictement aucun intérêt. Et effectivement, ça peut être...
Ça peut plus être.
Le bonne continuation... Après, je sais pas, peut-être que dans certains contextes...
Qu'est-ce que vous dites? C'est quoi les petits mots-clés? Vous vous dites ça marche à tous les coups?
Franchement, ça se fait au feeling et je pense que c'est vraiment ça. En tout cas, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment ça. C'est la spontanéité et puis c'est la lecture de la situation. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup avec des gens de la mode, des gens de l'industrie culturelle, mais on peut aussi travailler avec, un colloque d'une grande banque ou des choses comme ça.
Et donc, il faut s'adapter.
L'intérêt... Enfin, moi, ce qui me plaît, en tout cas, dans ce métier, ce qu'on défend vraiment chez No More Penguins, c'est de cette lecture du client et d'offrir vraiment une prestation qui soit sur mesure et pertinente en fonction des gens qu'on a en face de nous et pour leur offrir ce qu'ils veulent et et leur faire plaisir. Encore une fois, on revient à cette notion-là, mais après, voilà, on n'a pas les mêmes cadres d'intervention. Mais...
Kevin, ce côté-là, on voit bien qu'il y a quand même cette dimension un peu de sens, de spectaculaire, de théâtral, sans que ça en impose, qui revient en force. Les gens demandent ça, que ce soit des particuliers ou des marques lorsqu'elles orchestrent des événements. Mais vous aussi, encore une fois, qu'est-ce qu'il y a au Bristol, par exemple, vous qui êtes quand même un certain témoin de l'évolution des 10-15 ans, des grands restaurants, des palaces, qu'est-ce qui a muté, qu'est-ce qui a changé dans cette orchestration de la salle? Quels sont les petits gestes? Je vois aussi qu'il y a beaucoup de travail sur la coutellerie, tout un tas d'éléments qui avaient disparu, qu'aujourd'hui sont mises en scène de manière très discrète, mais quand même très mises en scène par vous-même. Quels sont les gestes que vous avez cassés pour mieux les réinventer?
Je pense que tous les éléments sont pensés dans une. Quand on parle du Bristol et d'une salle gastronomique, le choix des tissus, le choix de la porcelaine, le choix de la verrerie, rien n'est laissé au hasard. Je pense qu'on s'est rendu compte que beaucoup de nos clients avaient. Et le luxe, c'est d'avoir des relations humaines, avaient besoin de relations humaines. Donc notre but, notre mission, c'est de faire en sorte qu'il y ait un client qui vienne au Bristol, à Épicure, au 114 Faubourg, qui vient pour un besoin à répondre ou une envie. On dépasse ce besoin, le cadre de ce besoin et de cette envie pour qu'il en soit comblé. Donc c'est beaucoup plus de proximité en ayant peut-être un sens de l'humour un peu plus développé, plus confiance dans la connaissance des produits, dans l'interprétation des plats du chef pour en être le bon ambassadeur. C'est du travail en salle. Je sais que Frédéric Kaiser, qui est lui-même meilleur ouvrier de France 2011...
C'est lui qui vous a fait bosser, d'ailleurs.
On a bossé ensemble.
Il y a combien des meilleurs ouvriers de France au Bristol? Il y en a 4-5. Si on compte la salle, la cuisine,
c'est une collection.
Ouais. Ouais. Voilà. On est une bonne pépinière de talents.
Justement, vous venez de le dire, le dialogue avec le chef. Alors historiquement, c'est un peu la mythologie, mais elle a vraiment existé. Il y avait quand même une lutte entre la cuisine et la brigade de salle. C'est peut-être pour ça que parfois, le client ne se sentait pas si à l'aise. Aujourd'hui, est-ce que dans vos relations avec la brigade orchestrée par Éric Fréjon, grand chef s'il en est, vous dialoguez avec lui, vous parlez avec lui, vous participez justement à comprendre sa carte? Comment ça se passe? Ça se passe mieux qu'il y a peut-être 30 ans avec...
On a la chance au Bristol d'avoir déjà un chef présent qui est là...
Ça, je confirme.
Au Bristol.
Au passage.
Donc, pour discuter, c'est beaucoup plus facile. Et oui, le... Éric Fréchon est un chef formidable qui a compris qu'il avait besoin des retours des personnes qui ont une vue sur le client pour pouvoir évoluer. Et donc, il est même en demande de savoir comment sa cuisine est appréciée. Donc, quotidiennement, il voit le directeur de salle, que ce soit Frédéric Kayser, Patrice Jeanne, moi-même, et puis on parle de ce que l'on veut faire, comment est-ce qu'on va faire évoluer les choses, comment est-ce qu'on peut être meilleur dans ce que l'on a fait. Si on a fait des petites erreurs où on est des clients mécontents, pourquoi le client était mécontent et comment faire en sorte que ça n'arrive plus. Et parfois se dire peut-être que le client n'est pas pour nous, mais ça arrive très très peu de fois.
Le client n'est pas pour vous. À l'école Ferrière, oui. Jean-Luc Frusetta, justement, comment vous les convainquez, c'est ça? Comment vous réussissez à les convaincre, ces futurs étudiants, de l'intérêt? Parce qu'on l'a vu, la difficulté, c'est que au départ, c'est quand même un métier qui est assez mal vu. Je sais que Denis Courtiade a créé l'association au service des talents de demain. Est-ce qu'il est venu à l'école Ferrière?
Et il reviendra.
Voilà, c'est des gens comme lui, comme Kevin, qui puissent venir témoigner de...
Nos jeunes ont besoin de mentors. C'est pourquoi, quand ils sont à Ferrière, nous les immergeons dans tous les services du château, puisque nous avons un restaurant gastronomique Le Baron, un restaurant bistrot gourmand Le Chai, un hôtel 4 étoiles, bientôt 5, des séminaires. Nos jeunes tournent dans tous ces services qui évitent déjà cette incompréhension qui a mené aux luttes entre la cuisine et la salle, je ne connais pas le métier de l'autre. Nos jeunes apprennent tout cet univers de la gastronomie et du luxe pour ensuite savoir quel est celui qui leur ira le mieux, celui dans lequel ils s'épanouiront davantage. Et bien sûr, leur présenter des mentors. Nous avons un chef MOF, Patrick Juel, qui supervise l'ensemble de la gastronomie à Ferrière. Mais nos jeunes rencontrent deux fois par mois des meilleurs ouvriers de France en salle. Ils en ont déjà eu un cette année. Ils en auront deux l'année prochaine. J'espère bien que Kevin sera des
nôtres.
Nous en avons déjà discuté. Mais ils ont aussi des MOFs bouchers, des MOFs sommeliers,
parce qu'ils ont besoin de connaître aussi les produits, la cuisine.
Le produit. Et cet écosystème, cette notion de patrimoine gastronomique, Ferrière a vocation à effectivement diffuser dans le monde entier cette notion de repas gastronomique français, cette alchimie du bien-être.
Juste dans les grands restaurants, alors je peux me tromper, hein, ou dans les belles tables, et notamment les palaces, je trouve que la salle est très peu féminisée. C'est un métier encore assez de messieurs.
Ah non.
Ah mais j'ai bien dit, je pouvais me tromper. J'ai l'impression que c'est encore...
Allez, combien de femmes messieurs au Bristol
les... Nous, on est sur une base de 50-50.
À Paris, au Bristol.
À Épicure, on a même un peu plus de femmes que d'hommes au service.
Là, voilà. Chez No More Penguins, combien de femmes?
Alors, combien je suis incapable de le dire, mais je pense qu'on a 70% d'hommes.
Et à Ferrière,
nous sommes à 50-50 également sur les promotions recrutées. Bon, y compris sur les opérationnels.
Parce que nous, on a la sensibilité, l'intuition féminine, vous voyez, pour comprendre les clients.
Bon, mais même en cuisine, beaucoup plus de femmes.
Ça, oui. Et à la sommellerie.
Il y a vraiment les graphes.
On les voit enfin au col des jeunes filles avec beaucoup de pertinence et effectivement un regard, une sensibilité différente.
La prochaine fois, on fera venir les sommeliers et le changement pour les métiers de sommelier.
Allez, en tout cas, un plat au Bristol, juste rapidement. Un plat qui est impressionnant en salle. Faut pas louper.
Impressionnant, la poularde en vessie.
Ah voilà.
Impressionnant.
Ah voilà, alors là.
Vous avez des petites sœurs quand elles arrivent et qu'il faut la. Faut pas trembler là.
La salive.
Kevin Chambenois, merci infiniment, directeur de restauration merci Bristol Paris et MOF 2015. Romain Lucchini, cofondateur de No More Penguins, merci beaucoup
merci
à vous. Et Jean-Luc Frusetta, directeur académique merci de l'école Ferrière. On a intérêt à se tenir, on va mettre notre petit habillé.
Ah
bah
on
va se tenir à carreau maintenant.
Dans le service.
Ouais, ça.
Il n'y a pas que des jeunes, je suis sûr, à l'école.
Non, loin de là.
Tiens,
voilà. Voilà. Vous pouvez passer faire un extra quand vous voulez.
Ah bah voilà, on passe faire un extra avec nos morphines.
Bienvenue, bien évidemment.
Merci faire virer, beaucoup. Tu Allez, restez avec nous. Goodlux Paris, édition de week-end continue. Dans un instant, on va vous faire voyager.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goodlux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et dans un instant, c'est notre petite rubrique évasion dans Goodlux Paris, l'édition du week-end avec Capucine Grabi. Mais tout de suite, le livre de la semaine. Alors, je ne voulais pas apporter, Emmanuel, parce que c'est un livre d'art. C'est véritablement un objet d'art. Il a été d'ailleurs présenté cette semaine à la librairie Yvon Lambert, dans le 3e arrondissement. Vous vous en souvenez, on avait reçu Yvon Lambert. Ça s'appelle The Accidental Folk, pardon pour mon anglais. Et qui l'a créé, pas l'a écrit, c'est Saskia Debrault. Ça vous dit quelque chose, Saskia Debrault? C'est une mannequin, en fait. Elle est plus connue sur les podiums. Sauf que elle est néerlandaise et elle ne s'est pas improvisée plasticienne. En fait, c'est sa véritable carrière, première carrière. Donc, elle a créé cet ouvrage qui est édité, auto-édité à 500 exemplaires, qui fait 288 pages. dans son idée, elle ramasse des objets en tout genre, et elle les, surtout s'ils sont très abîmés, et elle les rassemble tous dans un ouvrage. Alors ça, du coup, ça donne des débris, des déchets, des bouts de ferraille rouillés, des cartes à jouer, des débris de feu arrière d'une voiture, voilà. Tout ce qu'elle peut ramasser, elle a compulsé tout ça dans cet ouvrage assez magnifique. Elle avait étudié la photographie et le design textile aux Pays-Bas. Elle avait mis de côté sa carrière de mannequin. Et comme le métier de plasticienne, ça marchait pas terrible, c'est pour ça qu'elle est remontée un peu sur les podiums. Maintenant, elle fait partie des mannequins les plus réputés, les plus connus. Elle a encore défilé récemment pour Givenchy.
Et donc, du coup, sa carrière de plasticienne va décoller.
Je ne sais pas, mais en tout cas, on est vraiment dans l'idée un petit peu influence Georges Perec, vous voyez.
Oui,
et en
d'accord.
tout cas, cet ouvrage, sincèrement, vous
un
enlevez...
graphique.
Voilà, a le mérite d'être graphique, d'avoir une véritable idée. S'il est présenté chez Yvon Lambert, ça vous donne quand même un petit peu le niveau de l'ouvrage. Et voilà, ça s'appelle The Accidental Folk, et c'est Saskia Debro. Et je trouve que c'est une belle histoire, parce que voilà...
Tentative d'extinction des objets.
Exactement. Et voilà, et ça raconte voilà, tout ça, tout ce qu'elle a ramassé au cours des voyages.
Il donne envie.
Voilà, alors justement, le voyage, on y va. Good Luxe d'ici et d'ailleurs.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end. D'ici et d'ailleurs.
Capucine Grabi, bonjour.
Karine Verniolle, comment ça va?
Bah, très bien. My Moon Spots.
Emmanuel, je vais dire bonjour parce qu'il
voilà,
il se vexe.
Non, non, mais oui.
Bonjour Emmanuel, comment allez-vous?
Très bien, parfait.
Où nous emmenez-vous cette semaine avec votre travel store pour nomades exigeants?
Eh bien, on est à Singapour la semaine dernière. J'aime bien les city breaks en ce moment, donc j'ai décidé de vous emmener à Berlin, qui ne me faisait pas forcément très envie, mais dont on m'a beaucoup conseillé d'aller. Effectivement, je suis revenue très, très, très contente de cette ville qui bouillonne, qui est en effervescence permanente. Et dans laquelle le champ des possibles est infini.
Ah oui, c'est étonnant. Ville complexe, hein. Parce qu'il y a un centre-ville qui est vraiment gemütlichkeit, quelques quartiers un peu bobos et émergents, mais Berlin, c'est immense.
Alors, c'est immense.
C'est une pelure d'oignon quand
vous
n'en finissez pas.
On va rentrer dans les détails, mais il ne faut pas forcément aller à Berlin-Ouest, mais il faut vraiment se concentrer sur Berlin-Est, qui est l'endroit où, justement, le bouillonnement et l'euphorie est la plus importante. Juste un point, Berlin nous apporte la preuve, justement, qu'en dépit de cette histoire compliquée et un peu déculpabilisante, eh bien, aujourd'hui, une ville peut complètement, à nouveau, séduire avec des cafés, une gastronomie, des galeries d'art incroyable un peu partout. On va rentrer dans le détail.
Un club de foot qui marche bien cette année.
Ah, ça c'est vous qui
coupez
des hôtels
du championnat.
On s'arrête
des hôtels. Exactement. Alors je vais vous parler d'un hôtel qui s'appelle Gorki, qui est le nom d'un écrivain russe, mais qui est aussi le nom d'un des plus anciens bars de Berlin Est. Et donc l'hôtel Gorki se trouve lui aussi dans Berlin Est, qui est donc le quartier qui est le plus en frénésie, parce que il faut comprendre que les Russes sont vraiment encore un peu délabrés, que c'est pas du tout le Stockholm ou le Paris magnifique qu'on peut connaître. Donc tout est en train d'être refondu, dépoussiéré. Il y a des vieilles usines en réfection. Et donc on se balade et on découvre des trésors à tous les coins de rue.
Dont cet hôtel,
le Gorki, qui est donc dans Berlin-Est. Alors on le voit pas, une entrée bien camouflée, un accueil assez chaleureux. C'est vrai qu'à Berlin, point important, les gens ne se prennent pas au sérieux non plus. J'ai demandé donc à faire une interview du patron et là j'ai un monsieur au look du loueur de vélo qui est venu me voir avec une casquette, des bretelles, un pantalon à jacquard. Il me dit, ah, c'est moi le propriétaire. Avant, je travaillais dans le théâtre. Maintenant, j'ai repris cet hôtel. Et donc, il a créé Gorki. C'est une sorte de concept d'appart-hôtel, très dans l'air du temps, avec des cuisines et des salles de bain qui s'invitent carrément dans...
Donc, carrément
dans,
au pied du lit, quoi.
Ouais, au pied du lit. C'est très sympa, c'est très intimiste. Et il y a beaucoup d'artistes qui s'invitent, justement, dans cet hôtel. On sent qu'il y a une vraie connivence entre les artistes et les hôteliers, et que c'est ça qui donne cette part d'émotion, ce supplément d'âme qu'on trouve pas forcément
c'est
dans d'autres pays du monde.
C'est marrant parce qu'ils utilisent les carreaux du métro parisien quand même s'ils sont colorés pour certaines chambres, certaines salles de bain, mais voilà, c'est peut-être le petit clin d'œil. Et alors qu'est-ce qu'on y fait?
Alors donc juste un point sur Gorki, c'est 34 appartements raffinés qui ont donc été designés par une jeune architecte franco-allemande qui s'appelle Sandra Pocket, qui a donc navigué entre la France et l'Allemagne, qui a chiné des pièces de designers, mais également qui a chiné partout dans les marchés opus du monde entier, et donc qui a meublé différemment tous ces espaces. C'est un petit peu vintage, c'est très sympa, donc beaucoup d'émotions. Et qu'est-ce qu'on y fait? Bon, on peut se balader un peu partout, et moi j'ai testé les vélos en cuir mis à disposition par l'hôtel.
Voilà. Ça, c'est comme ça qu'il faut se balader dans Berlin. Ça s'appelle donc
Gorki. Est-ce que vous avez peut-être une adresse à nous recommander, justement?
En termes de restaurants, ils sont un peu perdus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le côté énergique des Scandinaves, mais ça commence à venir. C'est-à-dire que la gastronomie berlinoise est une gastronomie intéressante, mais qui a pas eu cette percussion, elle a laissé ça aux nordistes. Ça commence à venir. En revanche, ils ont une énergie, c'est celle justement des cafés. Vous savez que c'est quand même la grande patrie des cafés. Et là, ils ont un talent justement à faire des petits sandwichs. Et puis surtout à Berlin, c'est la patrie de la Currywurst. Vous savez, c'est leur hot dog national. Vous avez plein de petits spots comme ça où vous allez manger cette saucisse avec cette moutarde un petit peu épicée. Ça, c'est le plat national berlinois. Et puis aujourd'hui, on voit dans tout ce qui est ce qu'ils appellent les conditoras et les cafétérias, là, il y a une vraie belle énergie. En ce qui concerne la scène gastronomique, ça va venir, mais pour l'instant, c'est un peu du côté du Danemark, du Nord, que ça pousse encore.
Alors, deux points importants, on ne peut pas vraiment se perdre à Berlin. Si on va dans Berlin, et ce petit quartier de Mitte, finalement, c'est quoi? C'est 5, 10 rues maximum, donc en 3 jours, on a vraiment fait le tour rapidement. Et on est très loin de Londres ou de New York, où il faut tout réserver à l'avance, où c'est vraiment... Enfin, spontané. C'est pas spontané du tout comme ville. Là, je veux dire, il y a des cafés à tous les coins de rue. Donc on peut y aller, plaisir, sans problème.
Et les forêts berlinoises, c'est une ville entourée de forêts.
Si on a le temps.
Vous avez une bicyclette. Et donc les filles. Moi, j'ai pas de bicyclette.
En bicyclette, moi, je vais à Berlin-Ouest et je reviens vite à l'Est.
Deux choses. Le Gorki et MyMoonSpot.com.
On réserve en un clic avec tablette hôtel sur MyMoonSpot.
Merci beaucoup à vous, Capucine Grabi. À très bientôt pour d'autres voyages. Allez, l'agenda.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. L'agenda.
Une petite vente, Emmanuel.
Petite vente. Longtemps qu'on n'avait pas baladé notre curiosité du côté de Drouot. 20 février, alors ces derniers temps, vous avez vu, je vous ai parlé beaucoup
de
belles mécaniques, de grosses voitures qui ont été dispersées, rétromobiles, charcuteries, etc. Là, c'est la même chose, mais en version mini, avec une rare vente de lot exceptionnel de Dinky Toys. Dinky Toys, marque mythique de petites voitures, créée en 1934, attention, marque anglaise à l'origine, pas du tout américaine. Alors c'est ça a accompagné toute la jeunesse des années 60-70. Une belle Dickinsoise, elle doit toujours être accompagnée de sa boîte. Là, je crois qu'il y a près de 200 lots. Alors que les Dickinsoise, ce qu'il y a de bien, c'est que là, il y a quelques lots qui vont être dispersés à partir de 400 000 euros. Mais autrement, il y a des affaires à faire. Et personne n'atteindra jamais une pièce qui s'est vendue une fois 14 000 euros. Vous pouvez vous faire plaisir. Et alors surtout, les marques françaises sont bien représentées, notamment Citroën avec des vieilles 2 chevaux, des DS19. Et puis on voit aussi quand même, c'est un petit peu la grande histoire automobile. Mais en version mini, petite échelle, avec notamment quelques pièces sur des Buick assez étonnantes. Bon, c'est pour les grands enfants. Hein.
Et voilà, la vente d'Inky Toys, donc ce sera le 20 février. Et vous avez jusqu'au 22 février pour faire du crowdfunding. La Monnaie de Paris lance Save a Bee. Qu'est-ce que ça veut dire en bon français? Une campagne de mécénat participatif pour l'installation de 3 ruches sur les toits du Palais Conti. Ils ne savaient pas encore leurs ruches. Et donc, ils se sont dit, nous aussi, on veut faire notre miel à la Monnaie de Paris. Ils espèrent 15 000 euros pour près de 150 000 abeilles, voilà, qui doivent s'installer sur le refuge parisien. Et c'est le fameux apiculteur Audric de Campo, c'est celui qui installe toutes les ruches sur tous les toits parisiens, qui va s'en occuper. Donc, même à partir de 10 euros, hein, vous pouvez participer. Vous avez jusqu'au 22 février. Et en contrepartie, vous aurez des entrées aux expositions, des petits pots de miel,
des visites privées du palais Conti. Donc pour 10 euros, on a un pot de miel.
Exactement, www.culture-time.com, projet Save a Bee, tout simplement pour contribuer aux abeilles sur le toit de la Monnaie de Paris. Emmanuel, on n'a plus le temps, mais vous nous raconterez...
Un miel sur les studios de BFM.
Exactement. Les ruches. C'est déjà la ruche à l'intérieur, on n'a pas besoin sur le toit.
Ah,
il
faut sauver les billes, les abeilles.
On n'a pas le temps pour la suite. Vous nous raconterez la valse des casseroles la semaine prochaine. Emmanuel, merci.
Avec plaisir.
À vous. On se retrouve même heure, même endroit la semaine prochaine. Good Luck Paris, c'est terminé pour aujourd'hui.